RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour les grandes gueules sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. On est ensemble jusqu'à midi, bien sûr en direct avec vous au 32-16. On attend vos appels sur tous les sujets d'actualité que nous allons débattre ce matin avec autour de la table notre agriculteur de Saône-et-Loire, Didier Giraud. Salut Didier.
Salut Olivier, bonjour à la France profonde.
Notre avocate, maître Sandrine Pégan. Bonjour Sandrine.
Bonjour à tous. Dis donc, ça serait pas un peu Sandrine et ses drôles de garçons?
Elle aime bien être au centre du jeu.
Ouais, elle est avocate,
la puissance,
pas pour rien.
Femme.
Et puis, ça fait longtemps qu'il n'était pas venu nous voir. Il nous manquait, le docteur Jérôme Marty. Salut Jérôme.
Et oui, le retour.
Le retour. Alors,
avec le teint allé.
Le teint allé de
passé,
fronton.
Ton opération, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, ouais.
N'importe quoi. Allez, je vous propose de rentrer. Alors si, tiens, je vous annonce tout à l'heure à 10h, notez ce rendez-vous, le maire de Cannes, David Lisnard, sera face au GG. Il est candidat à l'élection présidentielle. Il a claqué la porte des Républicains pour pouvoir se présenter en homme libre, si j'ose dire. Il incarne la droite libérale. Alors on pense beaucoup au président argentin Javier Milei. Est-ce que c'est l'Argentin de la Côte d'Azur? Est-ce qu'il a une chance, David Lisnard? Parce que j'ai fait le calcul, le pointage ce matin. On en est à plus de 25 candidats déclarés ou qui y pensent sérieusement,
dont 13 à droite.
Je rappelle qu'il n'y a qu'une place,
hein. Et 13 à droite.
On a l'impression d'être au marathon et que tout le monde veut son dossard.
Alors, à droite, c'est l'embouteillage, hein. Alors bon, comment compte-t-il lui se faire une place au soleil? Ça sera la question tout à l'heure à David Lisnard à partir de 10h face au GG. Ne manquez pas ce rendez-vous. Mais pour commencer, les carburants. Malheureusement, ce qui se passe actuellement dans le détroit d'Ormuz n'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant parce que la situation reste bloquée. Ce qui fait dire à un distributeur comme Michel-Édouard Leclerc, le prix des carburants ne baissera pas de sitôt. Lui, il table même sur au moins 6 mois de crise, c'est-à-dire jusqu'à l'hiver prochain. Et on apprend ce matin d'ailleurs que Sébastien Lecornu va faire de nouvelles annonces ce soir, alors toujours très ciblées, des aides au carburant, à la fois sans doute sur le prolongement éventuel des mesures qui sont déjà en place pour, par exemple, les agriculteurs, les pêcheurs ou les transporteurs routiers. Et peut-être d'autres idées, c'est ce que on nous dit du côté du gouvernement. Mais êtes-vous prêt à vous serrer la ceinture jusqu'à l'hiver prochain? C'est la question qu'on vous pose au 32-16. Didier Giraud, tout d'abord, toi, tu as eu la chance parce que tu as des aides.
Oui.
Ah, le vénard.
On la refait, je la fais toutes les semaines, donc on va la refaire. Alors, il a rebaissé un petit peu le GNR, là, le gasoil non routier. Celui qu'on met dans les tracteurs, il était avant crise aux alentours de 900 euros là, les 1000 litres. Il est monté à 1700, 1800, il est redescendu à 1500, mais peut-être il peut remonter. Ça veut dire qu'on a pris 60, 70 euros d'augmentation et on touche 4 centimes. Donc voilà.
4 centimes d'aide.
On touche 4 centimes d'aide. Donc
des 4 centimes
On aide les agriculteurs, les pêcheurs et les transporteurs routiers, on est sur 4 centimes sur un truc qui a augmenté de 70-80. Donc à un moment donné, on peut encore dire qu'on va aider les agriculteurs et les mettre au banc de la société, parce que il est là le jeu. Le jeu, il consiste à essayer de diviser pour en donner le moins possible. Les annonces qui ont été.
Ça me choque. 4 centimes par agriculteur et on annonce.
Du litre
et on annonce ça comme une vraie aide.
Oui. Et je connais pas.
On voit bien que l'État n'a plus d'argent.
Je connais pas ce sur quoi les pêcheurs sont aidés, mais c'est du même ordre, hein. Le fuel qu'ils mettent dans les bateaux, c'est plutôt un peu plus lourd. Ouais. C'est pas exactement comme le GNR. Ça coûte un peu moins cher à la base que le GNR, mais c'est du même ordre. Donc à un moment donné, dire il faut pas que les prix augmentent, donc on va aider les gens qui sont des gros consommateurs pour pas qu'il y ait de l'inflation derrière. Je pense que c'est une bonne idée, sauf que faire des annonces et ne pas le faire derrière, parce que le train de mesures qui va sortir ce soir, je t'annonce, hein, Ça va être encore des usines à gaz avec des imprimés à la con qu'il faudra récupérer sur un site qui passe par ANTS ou je sais pas quoi. Et puis à la fin, peut-être on te remboursera du crédit d'impôt, quoi. Peut-être. Parce que c'est très souvent du crédit d'impôt. Hein.
Les professions.
Donc à un moment donné, si on veut faire quelque chose, on baisse les taxes et puis voilà, c'est simple.
Les professions médicales sont touchées également, Jérôme Marty. Je pense aux infirmières.
Ouais, les professions médicales. Taxis. Alors il y a quelques
les taxis,
aides aussi.
Les ambulances.
Mais qui sont très parcellaires, pas pour les médecins d'ailleurs, les infirmières, oui. Mais c'est éminemment parcellaire. Mais encore une fois, on se fout de nous. L'inflation, on ne pourra pas l'empêcher. Effectivement, la crise, là, on en prend sans doute pour un an. Moi, je suis même plus pessimiste.
Toi, t'es plus pessimiste que
Leclerc qui dit 6 mois. Mais on est sur une crise qui est équivalente à la crise de l'OPEP en 73, quoi. C'est aussi important. Donc l'impact, il va être phénoménal. Il y a une chose dont on ne parle jamais, c'est les tarifs sur les autoroutes.
Oui, 15 jours, soi-disant, de stock. Hein.
Les tarifs sur les autoroutes. Je vous signale que le gasoil sur les autoroutes actuellement, il est à 2,70€, voire 2,80€.
Il faut éviter de faire le plein sur autoroute.
Mais voilà, mais pourquoi? Pourquoi on laisse faire ça?
Oui, pourquoi on laisse faire ça?
Pourquoi on laisse cette différence qui est quasi de 60 centimes par rapport à la ville, par rapport à l'extérieur?
Mais qu'il est hors crise aussi.
Mais en dehors de ça, tu n'empêcheras pas donc l'impact sur les produits de première nécessité. Évidemment que les agriculteurs vont augmenter leur prix puisqu'ils sont, mis devant des dépenses qui leur sont imposées. Et le gouvernement qui te parle encore une fois d'aide, oui, de 4 centimes, 3 centimes et tout ça, ou ne sait pas gérer, ou ne sait pas ce que sont les réelles difficultés des Français, ou se fout de nous, quoi. Je vous laisse choisir. Mais à mon avis, se fout de nous.
Monsieur Lecornu, qui prendra peut-être la parole encore ce soir, dit on n'a plus d'argent dans les caisses. D'ailleurs, lui-même doit trouver entre 4 et 6 milliards d'économies supplémentaires parce que la dette, avec cette crise, va augmenter. Donc, il n'a plus d'argent. Donc, il donne des aides très ciblées qui coûtent quand même quelques dizaines de millions d'euros à chaque fois.
Sûrement.
Il ne peut pas aller plus loin, c'est ce qu'il dit, monsieur Lecornu.
Enfin, en attendant, il engrange des taxes sur le carburant, quand même.
Ouais. Oui, ça, c'est
plutôt
vrai.
Plus important.
Je suis désolé. Le budget, il était fait avec les taxes sur le gasoil à 1,50€, quoi. Hein. Il n'était pas fait avec du gasoil à 2,50€.
Il utilise
donc,
en ce moment
à un moment donné, les taxes qu'il engrange en plus.
Mais bien sûr.
Ils ont beau me dire que c'est pas un trésor.
Voilà. Elle passe où?
Dans les aides ciblées.
Non, mais si monsieur Lecornu a une seule chose à nous dire ce soir, c'est combien de gras a fait le gouvernement grâce aux augmentations des tarifs du carburant et où va aller cet argent? Sans mentir. Qui nous disent on est obligé de le garder parce qu'il y a un déficit? Mais qui le disent? Par exemple, je dis n'importe quoi, on a gagné 15 milliards de plus grâce aux taxes. Je dis n'importe quoi.
C'est 180 millions par mois. J'écoutais un économiste qui disait.
Mais qu'il nous fasse le ratio entre ce que je donne aux professions qui nécessitent qu'on les aide et ce que j'engrange, quoi.
Sandrine Pégan, est-ce que tu es prête à te serrer la ceinture?
Franchement, pour moi, c'est un vrai sujet de crispation, je vous explique. Moi, je suis obligée de prendre ma voiture. C'est pas que genre je fais du chichi ou quoi que ce soit, mais j'ai un gros procès qui dure jusqu'à mi-juillet. Et c'est un dossier qui fait 50 tomes. Donc, je sais pas si vous imaginez les dossiers, comment ils sont énormes. Bon, bien évidemment, je viens pas tous les jours avec
mes 50 tomes. Pas numérisé, c'est toujours du papier.
Alors, si c'est numérisé, sauf que nous, on est un peu à l'ancienne. Quand t'es là en train de plaider ou quand tu veux faire attention à des choses et que tu veux interpeller le magistrat, t'es là, tu sors ton document. Voilà,
Donc, tu trimbales avec des gros dossiers, voilà, la paperasse.
Ma robe d'avocat, mon sac à main, bon voilà, c'est
transport
des trucs
en commun, t'es vite, quoi.
Je ne peux pas, c'est trop lourd. Donc je suis obligée de prendre la voiture. Heureusement, j'ai de la chance, j'ai une hybride. Mais quand je dis chance, elle est quand même mesurée parce que j'ai à peine 40 km d'autonomie. Figurez-vous que quand je prends la voiture et que je vais pour essayer de me recharger, déjà encore faut-il que je trouve une station de recharge électrique qui soit pas en panne, où il n'y a pas des véhicules qui sont stationnés dessus alors qu'eux, ils ne sont pas électriques. Et puis sinon, si parfois j'ai de la chance et que j'ai une place, vu que les places ne sont pas délimitées, les gens, ils se gardent n'importe comment. Je me suis rechargée 7 heures. Devinez le prix que j'ai payé en électrique. 67 euros. J'ai la facture à l'appui, je peux vous la montrer là à la pause. 67 euros au niveau de l'électrique.
Et tu fais le plein de ta voiture?
J'essaye justement de ne...
Non mais avec 67 euros, ça veut dire que tu recharges complètement la voiture?
Non, pas du tout, que 40 km d'autonomie.
Oui, bah bon.
Mais oui. Mais tu mets,
c'est plus cher que l'essence.
C'est une arnaque.
Et alors donc du coup,
c'est quoi comme modèle?
C'est sûr que c'était pas un dealer qui tenait la borne.
Et qui essayait de faire une essence.
Une hybride qu'elle recharge comme une essence.
Mais attends, c'est quoi comme modèle?
Alors c'est un vieux modèle, c'est un X3.
X3.
Puis Dalida, il a 4 ans, quoi. Tu vois,
et c'est quoi, t'as pris un chargeur qui est plus rapide? Enfin, tu payes plus parce que ça se recharge rapidement?
Mais non, même pas. Moi, j'ai pris ce qu'on m'a donné par rapport à BM, tu vois, c'est pas le souci. Ah oui, que... Mais c'est juste que pour te dire, c'est un vrai sujet le matin quand je prends la voiture. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Oui. Donc, je vais essayer de
Est-ce
rouler un petit peu.
Je vais pouvoir recharger ma voiture.
Donc, aujourd'hui, bien évidemment, grâce à RMC et BFM, c'est gratuit au niveau du parking. Donc, je vous remercie.
Bah oui, parce que dans le parking de la boîte, il y a quelques places où on peut recharger sa voiture.
Non, mais tu sais que tu peux lui piquer jusqu'à 60, elle va rien dire.
Non, mais
attends, les voitures électriques, 50% de hausse actuellement.
Oui, mais les gens, quand même.
Il y a une vraie. Soyons pas dupes. Si demain tout le parc bascule à l'électrique et que la consommation de carburant baisse en France. Je te garantis qu'on va aller prendre des taxes sur l'électrique. Le manque à gagner des taxes sur le carburant, il n'y a rien qui peut le remplacer.
Hein. Non, mais l'État ne ferait pas ça. 67 euros pour 7 heures de recharge.
Non, mais ça me paraît invraisemblable. Ouais.
Je voudrais qu'on donne la parole à Sylvain au 32-16. Il nous appelle de Gironde, La Réole. Bonjour Sylvain, bienvenue dans Les Grandes Gueules.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez des déclarations, notamment de Michel-Édouard Leclerc, distributeur de carburant, qui dit les prix ne vont pas baisser de sitôt. Alors, il faut faire attention parce que Leclerc, il s'est souvent planté dans ses prévisions. Il avait dit que ça allait baisser. Bon, ça pèse pas vraiment. Là, il dit que ça va rester comme ça
peut-être
pendant.
Il se garde un petit peu de marge aussi pour se refaire la cerise.
Pas sûr que c'est Leclerc qui prend beaucoup de marge. Les distributeurs, les supermarchés, c'est pas où ils font des marges.
Non, mais quand ça va commencer à baisser.
Mais en tout cas, est-ce que vous croyez, quand il dit là maintenant, ça va pas de baisser de sitôt et ça pourrait même durer jusqu'à l'hiver prochain?
Oui, bien sûr, j'y crois, mais de toute façon, ça baissera plus, ça restera au-dessus des 2 euros maintenant. Maintenant que voilà, c'est arrivé à ce stade-là, il faut s'y faire parce que moi, pour moi, à 70, c'est fini, on n'y reviendra plus.
Vous faites quoi comme métier, Sylvain?
Alors, moi, je fais un métier, je suis moniteur auto-école, donc ma voiture mon outil de travail.
Oui, donc ça, c'est votre outil de travail. Est-ce que vous allez répercuter?
Quand j'entends l'État dire on va faire des aides pour tous les gros, et nous on est où en fait là?
Est-ce que vous allez répercuter sur le prix des cours de conduite?
Non, pas du tout, non, je peux pas, parce que moi je travaille avec des prestataires, donc déjà que l'heure de conduire elle est déjà assez chère comme ça, on peut pas non plus répercuter le prix du carburant sur toutes les heures, parce que à force il n'y aura plus personne. Même si le permis est devenu obligatoire, mais je veux dire, c'est on peut pas répercuter les heures, donc les prix sur les heures. Mais moi, je reviens encore sur le propos du gouvernement. On va aider les pêcheurs, on va aider les agriculteurs. Alors, j'ai rien contre tous ces métiers-là, bien au contraire, il faut.
Les transporteurs routiers.
Et nous, on est où aujourd'hui? Personne ne parle de nous, en fait. Dans l'actualité, on ne parle pas de nous. Quand j'en parle autour de moi, on me dit « Ouais, mais c'est vrai, t'as raison, on parle pas de vous. » Non, comme quoi, en fait, nous, on a oublié. Pourtant, la voiture, c'est essentiel aujourd'hui, il me semble, non?
Ah oui, c'est votre
travail.
Sylvain,
le problème, quand on dit être ciblé, on oublie toujours quelqu'un.
Des professions qui prennent le volant tous les jours, il y en a plein dont on parle pas. Hein.
Mais bien sûr, non, mais tout à fait, mais je parle pas que pour moi, je parle pour tous, la voiture, c'est leur outil de travail. Vous venez au boulot en voiture, vous avez passé votre permis, vous avez besoin de nous. Donc là, aujourd'hui, on parle pas, mais moi, ça me fait trop rire, en fait. Pour le Covid, c'est pareil, on n'a pas parlé de nous. On nous a foutu dans la merde, et en fait, on n'a pas parlé de nous. Alors, je parle pas que de moi, je parle des autres, bien entendu aussi. Mais à un moment donné, alors, les aides, soit on en fait pour tous, soit on en fait pas. Mais moi, aujourd'hui, je serais de pas en faire.
Oui, mais Sylvain, c'est le problème. Quand le gouvernement dit aide ciblée, on oublie toujours quelqu'un. Ça, c'est.
C'est une façon de faire des économies, aide ciblée. Hein. Parce que sinon, on fait comme l'Espagne ou l'Allemagne, on baisse les taxes sur tous les litres.
Didier, je suis d'accord avec toi. Moi, aujourd'hui, c'est on baisse la taxe, point barre, on n'en parle plus. Arrêtons de faire du cinéma à droite, à gauche avec des aides de ci et de là. Non, on baisse la taxe, point barre, c'est tout. Moi, j'ai fait encore un plein hier, 80 balles. 40 litres, et c'est bon quoi. J'ai fait 250-300 euros d'augmentation par mois.
Ça fait trop mal ça.
Alors il y a une proposition qui circule, Sylvain, mais que pour l'instant le gouvernement ne veut pas reprendre, c'est de suspendre le certificat énergie ou environnement, je ne sais plus trop comment on l'appelle, qui pèse sur ce qu'on achète à la pompe, qui ne rentre pas dans le budget de l'État. Donc si on le suspend, ça ne va pas gréver les finances publiques. Ça sert à financer la transition écologique. Et des distributeurs comme Intermarché ou Leclerc disent, on pourrait suspendre pendant quelques mois. Ça permettrait de gagner entre 15 et 18 centimes à la pompe. Alors, c'est pas extraordinaire, mais enfin, c'est déjà ça. Et ça, le gouvernement ne veut pas le faire.
C'est ce qui finance aussi le développement de l'électrique, quoi.
Oui, c'est pour ça que le gouvernement ne veut pas le faire, parce que le gouvernement parie sur l'électrification. Vous avez vu, M. Lecornu, il dit en gros aux infirmières, achetez une voiture électrique.
Oui, mais ce certificat d'énergie, il est là aussi pour financer la transition écologique.
C'est ce que je viens de dire.
Oui, ce que je sais. Mais ce qui veut dire que si aujourd'hui tu l'enlèves, donc en fait, quoi?
Tu le suspends, tu peux le suspendre quelques mois.
Ouais. Oui, donc ça veut dire que c'est au détriment de
non, c'est pas au détriment parce que tu peux aussi te dire que sur l'augmentation des taxes en lien avec l'augmentation des carburants, les 17 centimes, ils s'y retrouvent aussi dedans maintenant, quoi. Donc tu peux les enlever là, quoi. C'est tout. Et puis l'État prendra sur finance pour financer l'électricité.
Sauf que si la crise dure, toi tu dis, elle va durer sur un an. Oui. Là, maintenant,
parce que notre auditeur le dit très bien, il y a une barre psychologique, elle est passée, les 2 euros. Elle est passée. Nous, anciens, là, les plus anciens d'entre nous, on a connu l'époque de l'essence à 1 euro, quoi.
Moi, j'ai connu quand c'est passé de 1 à 2 euros.
Souvenez-vous, les gilets jaunes sont descendus dans la rue parce qu'on était autour de 1,50 ou de 1,30, 1,40. Aujourd'hui, on a passé les 2 euros.
Donc, psychologiquement, tu dis.
Je suis d'accord avec ça, on reviendra difficilement dessous.
Après, n'oublions pas que c'est à cause de la guerre, tout ça. Cette guerre, c'est un vrai bourbier. Et attends, on fait comme si on était les étonnés. Mais pardon, on connaît très bien l'expression économique où on dit que les prix montent comme une fusée, pour descendre, c'est comme une plume. Ça, on le sait, tu vois, on se dit, oh là là, mon Dieu, ça va encore durer. Ben oui.
Non, mais tu m'enlèveras pas de l'idée qu'il y a des spéculateurs là-dedans.
Ah, bien sûr.
Ils sont où dans la filière? J'en sais rien, mais il y a des spéculateurs.
Allez, dans un instant, on écoutera Nicolas au 32-16, et puis on sera avec un représentant de l'association UFC Choisir, puisque eux, ils nous annoncent que cette crise de l'énergie va faire flamber l'inflation pour les produits frais, notamment. Et d'ailleurs, il va falloir sans doute renégocier les prix qui l'ont été une seule fois d'ailleurs en France. Il y a une négociation annuelle, et sans doute entre industriels et grande distribution, il va falloir renégocier certains prix. Donc l'inflation va s'installer, c'est l'autre mauvaise nouvelle de cette crise. Mais l'événement, et ça c'est une bonne nouvelle sur RMC ce matin, c'est que vous allez pouvoir remporter vos places pour le match de Ligue des Champions Paris Saint-Germain Bayern de Munich.
Oh là là.
Oui, c'est mardi prochain, demi-finale de la Ligue des Champions, 21h au Parc des Princes. Nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, ce n'est pas rien. Avant le match, vous assistez aux émissions d'RMC, ensuite vous partez au Parc des Princes à Paris pour assister au match avec la personne de votre choix. Et enfin, retour à RMC dans les coulisses de l'after avec Bribois Riolo pour le débrief du match en direct. Alors, dès que vous allez entendre ceci, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. Vos places PSG Bayern de Munich, c'est donc pour vous et ça se gagne uniquement sur RMC. Allez, à tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Retour des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec autour de la table ce matin Didier Giraud, notre agriculteur, le médecin Jérôme Marty et l'avocate Sandrine Pégan. On parle carburant, on parle inflation avec Nicolas au 32-16. Bonjour Nicolas.
Bonjour les Gigi.
Vous nous appelez de Vaucluse à Monteux précisément.
C'est ça.
Alors on va se serrer la ceinture, enfin on va devoir se serrer la ceinture encore plusieurs mois, c'est ce que dit certains spécialistes comme Michel-Édouard Leclerc qui ne voit pas de baisse arriver de sitôt.
Bah, à force de serrer la ceinture, je vais avoir la taille mannequin, hein, comme pas mal de monde, hein, parce qu'on se serre la ceinture depuis pas mal d'années.
C'est pas faux.
Donc là, la réflexion, il va falloir serrer la ceinture. Ouais, non, je peux plus, la gars. Et je peux plus. C'est top. Donc on est, ils sont gentils, nos politiques. Il y en a certains qui veulent sauver le macronisme 10 ans pour avoir des résultats à peu près corrects dans les pourcentages des tableaux en décembre, janvier. Les autres, ils font la course à l'échalote pour 2027. Non, on arrête là, ils se mettent tous au travail. Des aides à 4 centimes le litre, comme disait tout à l'heure
Didier.
Non, on arrête le truc.
Voilà, enfin, Nicolas, reconnaissez que le gouvernement n'est pas responsable de cette crise énergétique. Là, pour le coup, ça subit.
Je suis entièrement d'accord.
Le gouvernement est responsable de ne pas avoir assez initié les transitions. Hein.
Voilà. Les Espagnols ne sont pas non plus responsables de cette crise énergétique. Pourquoi le gasoil là-bas, il est à 1,60, 1,70?
Parce qu'il taxe moins le carburant.
Et oui.
Il faut arriver à un moment.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui.
Ce qui n'était pas le cas de l'Allemagne avant la crise et qui aujourd'hui est moins que nous. Parce que le gasoil en Allemagne était plus cher avant la crise que chez nous. Et aujourd'hui, en Allemagne, il est moins cher, quoi. Faut m'expliquer.
Oui,
aussi.
Mais parce que l'Allemagne est un pays peut-être mieux géré que le nôtre et qu'ils ont
des marges de manœuvre.
Ils ont profité. Ils ont dit avec cette crise, on va faire une petite ristourne fiscale pour faire baisser le carburant.
Olivier, tu viens de le dire. L'Allemagne est responsable. Ils ont mieux géré. Donc, on en revient. On n'est pas tributaire, on n'est pas responsable de la guerre qui se passe là-bas, mais on est responsable d'une gérance de l'État, oui. De l'État mammouth, où ils sont incapables de réduire quoi que ce soit. Et la seule réponse qu'il y a, c'est des taxes depuis des années. Donc, serrer la ceinture, non, c'est plus possible. On peut plus serrer la ceinture. Ouais, c'est pas possible.
Ouais, non, là, c'est vrai.
On nous lance, il faut vous mettre à la voiture électrique. J'étais sur le site de Renault hier soir pour regarder pour un fourgon, voilà. Ah, le fourgon, il sort à 300 balles par mois. Ok, super. Sauf que il sort à 300 balles par mois pour 10 km par an. J'en fais 30 000. Donc et là, oui. Ça bascule à 900 ou 1000 balles par mois.
Ah.
Donc, hors de question. Même pas la peine.
Bah oui.
Ouais, donc c'est pas adapté parce que vous êtes paysagiste, donc vous avez besoin d'un fourgon.
Ah oui. L'utilitaire en électrique, ça n'existe pas.
La remorque qui est derrière. Et ça, il n'y a personne qui me sort une autonomie avec la remorque chargée. Combien
vous savez quoi? Parce que, Nicolas, ceux qui nous parlent de véhicules électriques, ce sont souvent des Parisiens. Je vous parle des responsables. Hein, des responsables parisiens qui n'ont peut-être d'ailleurs pas de voiture, parce que souvent, ils font autrement, et qui pensent effectivement que tout le monde peut passer à l'électrique comme ça, alors que vous l'avez dit, quand on a besoin d'un fourgon, c'est pas possible. Non, quand on est transporteur routier, c'est pas possible. Lorsque vous avez besoin de faire beaucoup de kilomètres et donc pouvoir recharger à tout moment, c'est difficile parce qu'il n'y a pas des stations de recharge. Donc en fait, c'est une vision très parisienne, moi, de l'utilisation des voitures.
La vision, il faut même l'élargir. On parle du carburant, du pétrole. L'électricité, quand tu vas tirer ces gaines électriques, il y a du plastique autour de son cuivre. Nous, quand on va aller faire nos achats au supermarché, il y a du plastique partout. Le plombier, quand il fait sa plomberie, il y a du plastique. Tout va augmenter dans la peinture. Le mec qui fait des transports.
Le peu de répercussions qu'il va y avoir sur le transport, ça fait augmenter tout.
Les engrais pour toi, Didier, pour tes collègues.
Moi, je connais des gens qui sont en train de faire l'impasse sur l'engrais, là.
Ouais. C'est-à-dire, comment tu fais?
Que tu n'en mets pas.
Et ça pousse pas, là?
Bien moins.
Mais tu vas avoir un énorme problème dans le monde hospitalier. Hein. Le monde hospitalier, c'est 170 000 tonnes de plastique par an.
Notamment pour les seringues.
Or, nous, on ne peut pas augmenter les prix. On ne peut pas répercuter.
Non, mais c'est
donc,
ça
veut dire que le déficit des hôpitaux va exploser.
Mais j'ai une question à te poser,
qu'est-ce qui vous empêche d'augmenter, pardon?
Parce que t'as des tarifs fixes, ça, tu peux pas augmenter tes prix.
Oui.
L'hospitalier, il est à 23 euros, et après, les tarifs de médicaments, ils sont fixes.
Tout est bien encadré, et pourtant, il y a des choses qui augmentent, comme par hasard, par rapport à ça. Donc,
moi, j'ai une question, parce que, par exemple, les seringues en plastique, si on manque de plastique, puisqu'on en produit moins. On va vers une pénurie de plastique.
Est-ce qu'on peut refaire des seringues en verre?
Refaire des seringues stérilisables.
Non, mais ma question. Je pensais aux masques, au manque de masques pendant le Covid, parce qu'on s'est aperçu que la France ne produisait pas de masques.
Ouais.
Est-ce qu'on produit des seringues en France? Non. On doit les acheter ailleurs.
Je pense qu'il y a des labos français.
Est-ce qu'on va pas avoir un problème de pénurie?
Mais si.
Ah oui.
Mais clairement si.
De pénurie, je sais pas.
C'est déjà sur le plastique.
C'est évident qu'on va l'avoir.
Évident. Oui.
Alors explique-moi par quel phénomène.
Ça va cogner.
Parce que le prix va augmenter. Ça, je te l'accorde. Mais de pénurie, je vois pas.
Mais parce que le pétrole à un moment donné va en manquer forcément. Puisque je te rappelle que les asiatiques aujourd'hui, c'est les plus impactés par la fermeture des Trois d'Hormuz. Ils n'ont plus le pétrole nécessaire. Nous, on s'en sort parce qu'on l'achète ailleurs. Mais enfin, les Asiatiques vont aller donc acheter là où il y en a encore.
Tout le monde va vouloir acheter
le pétrole au même endroit. Donc forcément, effectivement, ça fait monter les prix, et dans un premier temps. Et la deuxième conséquence, c'est la pénurie ensuite.
Mais aujourd'hui,
bien sûr, la crise.
Est-ce que tu as des chiffres sur la baisse de production de pétrole, de brut?
Oui,
moi, j'ai pas vu de baisse de production.
J'ai vu
qu'il y a des problèmes d'acheminement.
Ah oui, donc c'est la même chose. Parce que si tu produis ton pétrole et que tu ne peux pas l'acheminer vers ton client, forcément.
Non, mais il y a un oléoduc qui traverse l'Arabie Saoudite.
Qu'on
s'en serve et puis qu'on récupère
la réflexion de Giraud, ça me fait passer à quelque chose. On nous avait dit qu'on avait des stocks tampons.
Oui.
Et que ça éviterait la hausse des prix. Ils sont où, ces stocks?
Non, mais ça.
Non, mais voilà, des
pénuries. Ça évitera la pénurie, mais pas la
hausse. Ça bloqué. On a débloqué une partie des stratégiques, mais ça n'a pas fait baisser les prix. Contrairement à ce qu'avait dit Monsieur Lescure, le ministre de l'économie, qui nous a dit ça. Voilà.
Aucun doute là-dessus, moi.
Je voudrais maintenant qu'on parle plus généralement de cette inflation qui risque de nouveau flamber, et notamment sur les produits laitiers et frais, puis ensuite peut-être sur les produits d'hygiène et de beauté, les emballages, les produits manufacturés. C'est l'effet domino que dénonce et que redoute surtout UFC Que Choisir dans sa dernière enquête. Et je voudrais qu'on donne la parole à Grégory Carré. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Vous êtes l'un des responsables du FC Que Choisir. Et vous dites, attention, une nouvelle vague d'inflation arrive.
Ah oui.
Oui, ça semble malheureusement un peu inéluctable. Et les raisons, c'est toutes celles que vous avez évoquées juste avant. Hein, c'est-à-dire que les coûts, les surcoûts dont sont victimes les agriculteurs, les industriels les vivent aussi. Et de toute façon, au final, c'est toujours le consommateur qui va payer, parce que c'est lui qui est livré. Donc ça paraît un peu inéluctable. La différence avec ce qu'on a connu sur les carburants, c'est que il y a deux différences. Première différence, c'est que ça va être lissé dans le temps, c'est-à-dire que l'augmentation va pas être aussi soudaine qu'elle est pour les carburants. Et l'autre différence, c'est que bon, sur les carburants, on a critiqué le fait que ça descend pas suffisamment vite par rapport à la façon dont ça progresse, et que dans les prix alimentaires, ça baisse jamais au final, voilà.
C'est-à-dire qu'une fois. Mais moi, Monsieur Carré, j'ai quand même une réflexion là-dessus. Faut pas laisser croire que les agriculteurs vont augmenter les prix comme ça, quoi. Hein. Aujourd'hui, concrètement, un litre de lait, il coûte plus cher à produire aux paysans parce que le génère coûte plus cher, parce que l'engrais coûte plus cher, parce que le transport qui lui amène ces intrants-là coûte plus cher. Mais derrière ça, le litre de lait, il va rester au même prix tant qu'il y aura pas une négociation commerciale entre l'industriel qui lui valorise son litre de lait et la grande distribution. Et aujourd'hui, la grande distribution dit on a fait la négociation de prix en février, on revient pas dessus. Donc c'est pas l'agriculteur qui va augmenter son litre de lait, c'est tout ce qui se passe entre la ferme, entre la sortie de la ferme et le consommateur qui va augmenter, et là les gens vont répercuter, mais c'est pas l'agriculteur qui va répercuter.
Grégory Carré.
Alors c'est la raison pour laquelle cette hausse va être lissée dans le temps, comme elle l'a pas été pour les carburants, mais comme elle l'avait été en 2022, qui est quand même de sinistre mémoire pour les consommateurs. Et effectivement, aujourd'hui, les agriculteurs comme les industriels sont déjà en train de subir, eux, les hausses de coûts. Et ils vont négocier avec la grande distribution pour savoir la façon dont vont pouvoir être répercutés pour eux, pouvoir être répercutés dans les prix en rayon. C'est pour ça que ça va être lissé. C'est pour ça que ça va faire que des mécontents, de toute façon. C'est-à-dire que les agriculteurs vont trouver que c'est trop tardif, les industriels aussi. La grande distribution va jouer le chevalier blanc en disant qu'elle essaie de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. On n'est pas, de toute façon, faut qu'on s'y attende. C'est-à-dire que effectivement, tout le monde est perdant quand le pétrole augmente. C'est de l'argent qui part à l'étranger, qui part dans les marchés de spéculation, mais bien sûr que c'est le pays qui s'appauvrit. D'abord les producteurs, les transformateurs, et au final, c'est les consommateurs qui vont payer la note.
Mais ça va
être lissé dans le temps, effectivement.
Oui, mais une question, Grégory Carré. En France, c'est une particularité française, on négocie une seule fois entre industriels et grandes distributions les prix. Ces accords ont été conclus le 1er mars. Ça fixe normalement les tarifs sur l'année entière. Donc, alors j'imagine qu'effectivement, les industriels vont faire pression pour pouvoir renégocier, mais a priori, ils sont déjà négociés.
Lors de la guerre en Ukraine, alors, c'est ce qui s'était passé. Il y avait eu une deuxième négociation.
Oui, voilà. Il y a quand même, et fort heureusement pour les agriculteurs et les industriels, il y a quand même des clauses de révision. Alors, la grande distribution va se cacher derrière les négociations pour ouvrir le plus tard possible ces négociations, mais il y a quand même deux types de mécanismes qui vont être à l'œuvre. Il va y avoir l'obligation de réouvrir des négociations. Et là, c'est un peu peut-être le gouvernement qui va donner le baromètre en disant est-ce que c'est dans les... Il va falloir écouter les discours. S'ils mettent en avant le terme d'agriculteur, ça veut dire qu'ils vont vouloir ouvrir un peu plus tôt les négociations. S'ils parlent d'industriel, ça veut dire que ça va s'ouvrir un petit peu plus tard. Ça, c'est la première clause. Et puis, il y a quand même des clauses de révision automatique. Quand vous avez le prix des matières premières agricoles qui décolle, quand vous avez le prix des hydrocarbures qui décolle, il y a certains denrées, notamment les produits où il y a une grande part de matières premières agricoles, pour lesquels il y a des clauses de révision automatique. Fort heureusement, sinon... effectivement, vous arrêtez de fabriquer. Si vous perdez de l'argent, vous arrêtez de fabriquer.
Oui, mais les fruits et légumes. Pour que je comprenne bien, vous avez dit au début de vos propos, les prix vont augmenter et ça ne rebaisse jamais. C'est-à-dire qu'après, ces prix restent à peu près au même niveau.
Exactement, c'est ce qu'on a vécu en 2022-2023, et on s'est tous fait un petit peu enfariner quand on nous disait il y a plus l'inflation est nulle. L'inflation est nulle, ça veut dire que les produits arrêtent d'augmenter, ça veut pas dire qu'ils diminuent. Donc effectivement, les prix n'ont jamais diminué quand la situation s'est un peu assagie après les premiers mois du conflit. Et même si on prend un exemple très simple, viennent de se clôturer les négociations commerciales pour l'année 2026. Alors, elles sont déjà obsolètes parce que depuis, il y a eu des flambées de certains coûts. Mais ce que des industriels nous ont un peu dit sous le manteau, c'est que eux, ils avaient consenti des baisses de prix à la grande distribution, qui celles-là n'ont jamais été répercutées en rayon. Et maintenant, bon, c'est déjà démodé, on est déjà passé dans une autre phase. Donc, on aurait normalement dû observer au mois de mars, au mois d'avril, une petite baisse qui n'avait rien à voir avec la guerre au Moyen-Orient, qui était liée aux négociations qui venaient de se clôturer pour 2026. Maintenant, de toute façon, on est passé à une seconde étape, c'est effectivement comment les agriculteurs et les industriels, qui subissent aussi des hausses de coûts, vont obtenir la
répercussion. Mais ça a une vraie vertu, le fait que ça soit le transport qui finalement est la charge la plus importante dans toutes les denrées comestibles, on va dire. Ça a une vraie vertu, c'est que votre tomate et votre concombre, il fait plus le tour de la planète avant d'arriver sur l'étal, quoi.
Oui, à condition d'acheter la tomate française.
Mais même si t'achètes pas de la tomate française, si elle a plus de transport, elle devient moins compétitive.
Oui, mais alors justement,
puisque c'est le transport qui augmente le plus.
Ça favorise le circuit court, quoi.
Ça favorise le local.
Monsieur Carré, puisque on parlait des produits.
La question.
À votre avis, c'est quel produit qui va être impacté en premier et le plus fortement?
Alors, ça va être probablement les produits frais, parce que c'est ceux qui ont les dates de péremption les plus courtes. C'est-à-dire que les produits que vous allez trouver là maintenant en rayon, c'est des produits qui ont été fabriqués depuis le début du conflit au Moyen-Orient, donc qui ont tout de suite été impactés par la flambée de plusieurs cours. Il n'y a pas que les carburants, hein. Malheureusement, il y a les engrais. Vous l'avez très bien expliqué. Il y a bien sûr tout ce qui est emballage. Faut pas non plus se voiler la face. Il y a un petit peu de spéculation sur les marchés des matières premières agricoles, hein. Et même la FAO, vous savez, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a déjà pointé une flambée des matières premières agricoles plus 2,4%. C'est-à-dire que c'est au niveau mondial. Et à terme, effectivement, on va le retrouver dans nos rayons. Donc, pour répondre à votre question, je m'égare, pardon, c'est les produits frais en premier. Et les produits qui n'ont pas de date de péremption, ce sera plus tard, ou ce sera peut-être pas le cas, si jamais il y a une petite accalmie au niveau du Moyen-Orient. Mais malheureusement, par exemple, les industriels, vous disiez que c'était les carburants. Les industriels nous disent que c'est le gaz qui leur coûte très cher, parce que en France, faut savoir que l'industrie agroalimentaire fonctionne beaucoup au gaz, et le gaz a flambé. Et même s'il y a une accalmie au niveau du Moyen-Orient, il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été abîmées. Donc ce sera pas dans les prochaines semaines que si ça s'arrête, ça pourra retrouver une situation normale.
Merci Grégory Carré de l'association UFC Que Choisir, avec malheureusement des mauvaises nouvelles à venir. La question était posée sur le compte X des Grandes Gueules. Êtes-vous prêt à vous serrer la ceinture? Qu'avez-vous répondu? Vous dites non, sûrement pas, à 77,2%. Dans un instant, Anaïs Sens nous rejoint. On s'en fout pas. À tout de suite sur RMC et RMC Story.
Pardon.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
Les Grandes Gueules.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, avec Maître Sandrine Pégan, le docteur. C'est l'alerte! C'est le moment pour vivre l'expérience RMC. Et quelle expérience, puisque vous pouvez gagner vos places pour Paris Saint-Germain, Bayern de Munich. Demi-finale de la Ligue des Champions, c'est mardi prochain, mardi 28 à 21h au Parc des Princes. Vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. À vous de jouer, à vous de gagner.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout, on s'en fout pas.
Donc, Sandrine Pégan, Jérôme Marty, Didier Giraud, nous accueillons Anaïs Sens. Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Le député LFI Thomas Porte regrette le manque de mixité dans le rugby. C'est ce qu'il a dénoncé hier sur la chaîne YouTube. Parole d'honneur, écoutez.
J'ai joué depuis que je suis petit au rugby, et on était quasiment que des blancs. Il faut, sans être naïf, c'était pas, et tu faisais 100 mètres, t'allais voir le club de foot, à 5 mètres de chez moi, il y avait.
C'est beaucoup plus mélangé.
Ouais. Ou voire pas du tout, mais de l'autre côté, tu vois.
Dans la même ville.
Ouais, bien sûr.
D'accord.
Dans la même ville, mais parce que, donc évidemment, bien sûr, moi j'ai grandi aussi avec ce discours, le rugby c'est les valeurs, etc., etc. Et je crois qu'il y a des valeurs dans tous les sports, d'ailleurs. Bah c'est pas propre au rugby. Le symbole de cette catastrophe-là, c'est la cérémonie de Coupe du Monde avec Jean Dujardin, la baguette de pain, le Marcel et la moustache, enfin, je veux dire, c'est bon quoi.
Voilà le député LFI Thomas Porte. J'ai joué depuis petit au rugby, on était quasiment que des blancs, on s'en fout ou pas. Notre rugbyman des GG, Didier Giraud.
On s'en fout pas.
Autre rugbyman, Jérôme
Marty.
Non,
on s'en fout pas, bien sûr.
Et Sandrine.
Bah, moi, Marseillaise foot, on s'en fout.
Bon. Didier.
Pardonnez-moi, mais.
Non, mais c'est la bouillie habituelle de LFI.
Bouillie.
C'est la bouillie imbuvable habituelle de LFI.
Qu'est-ce qui va mal
dans ce qu'il dit ? Tu dis de la connerie. Alors bien sûr qu'il y a certainement une époque dans les années 80 où il y avait peut-être plus de gens de couleur au foot parce que c'est un sport qui est plus universel, qui est plus populaire, qui est plus, enfin tout ce que tu veux, et que le rugby est un sport plus rural. Moi quand j'étais à l'école,
plus rural,
oui.
Oui.
Et moi quand j'étais à l'école, dans ma classe, il y a jamais eu un noir, quoi. Mmh. Voilà. Mais c'était un fait parce que j'habitais en milieu rural où il n'y avait pas de la mixité. Donc, c'est tout.
Tout dépend où se pratique le sport, en fait.
Aujourd'hui, tu vas voir le centre de formation de clubs comme Massy, comme Ris-Orangis, comme, il y a 80% de blagues, quoi. Voilà. Et je trouve que dire ça, c'est de la tambouille pour pas dire mieux, parce que ça n'alimente aucun débat.
Oui, mais quoi.
Aujourd'hui, regarde l'équipe de France, les procès qui sont faits à l'équipe de France de foot, où on dit il y a plus un seul blanc dans l'équipe de France de foot. Et regarde l'équipe de France de rugby, il y a une proportion de noirs, entre autres chez les féminines.
Mais il y en a quand
qui
même.
Est plutôt, elle est plutôt importante. Ouais. Je saurais pas dire, mais dans l'équipe de France féminine de rugby, aujourd'hui, il y a certainement, entre un tiers et la moitié de filles, black. Mais c'est fait parce que l'équipe de France de rugby est alimentée par les clubs du bassin parisien. Voilà, tout simplement.
Compris. Évidemment, Marty.
Non, mais il a parfaitement raison dans ses arguments. Le rugby était un sport rural et semi-rural il y a quelques années et qui est devenu plus citadin aujourd'hui. Faut pas oublier qu'on ne joue pas au rugby sur du goudron, hein. On joue pas au rugby sur un parking, on joue pas au rugby dans la rue.
Et donc, au foot, tu peux.
Et donc le foot on peut, et l'ascenseur social au foot a beaucoup plus marché parce que il y a eu des gosses qui se sont révélés d'abord par le foot de rue en quelque sorte.
Bien sûr.
Ce que tu peux pas avoir dans le rugby, il y a ça. Mais Thomas Porte, il est totalement inconstant dans ses propos et il est même.
Ah bon.
Et il est.
C'est curieux.
Il est très paradoxal parce que dans la même interview. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Dans la même interview, il te dit, quand il parle de la cérémonie avec Jean Dujardin, il te dit, donc, Jean Dujardin, la baguette de pain, le Marcel, la moustache, c'est bon, quoi. C'est caricatural. Regarde le top 14. Tu as une mixité internationale incroyable. Tu as des joueurs qui viennent des quatre coins du monde, de toutes les couleurs de peau, de toutes les religions. Donc, il dit tout et son contraire dans la même interview.
Oui, il dit finalement que le rugby, c'est la diversité.
Il décrit une situation quand il était gamin.
Mais peut-être parce que,
et ça, c'est vrai.
Parce qu'il veut faire un procès qui n'a pas lieu de faire et qu'il se prend les pieds dans le tapis.
Mais évidemment, parce que s'il pousse son raisonnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire le rugby est raciste,
on oui, parle bah, pas de oui, si. Ah bah, si, oui bah, parce oui, que derrière
ça veut dire, sûr,
c'est ça qui veut dire.
Pardon, mais quand il dit Dujardin, la baguette c'était naze, etc. Le béret, oui, il dit en gros
le rugby est raciste,
voilà, c'est le rugby raciste et réac,
et c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Si ça a pu l'être.
Enfin, maintenant, avoir une baguette, cette raciste et réac, ça dit quelque chose à la personne
comme
qui dit
argument, ça.
Mais bien sûr.
Parce que tu portes la baguette et le béret, t'es raciste. Non, mais c'est débile. Comme
non, mais de toute façon, on va pas commencer à mettre des quotas.
Madame, vous avez dit que vous en foutiez.
Mais je m'en fous. Oui, mais c'est pour ça. Je m'en fous. Pourquoi? Parce que.
Donc,
on va pas commencer à mettre des quotas. On prend les meilleurs joueurs.
Non, mais la cérémonie de la Coupe du Monde de rugby, elle rappelait justement le creuset du rugby, qui était la ruralité. C'était ça, c'est tout.
Les GG. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, vous savez, créée par François Hollande après l'affaire Cahuzac, elle a dévoilé hier les déclarations d'intérêt et de patrimoine de 30 des 36 ministres du gouvernement. Alors, on y apprend notamment deux choses. Un ministre sur deux est obligé de se dessaisir de certains dossiers pour cause de conflits d'intérêts possibles, comme Serge Papin, par exemple, le ministre du Commerce, qui ne peut pas s'occuper des dossiers du groupe Auchan. C'est quand même embêtant, puisqu'il en a été le président non exécutif. Et puis, on apprend aussi que Vincent Jeanbrun, le ministre du Logement, a touché pas moins de 16 000 euros par an pendant 4 ans au titre de président du syndicat intercommunal du cimetière de l'Aille-les-Roses. À cela s'est ajouté aussi le revenu perçu en tant que président du syndicat intercommunal de la géothermie. 16 000 fois 4,
ah bah dis donc.
64 000 euros en 4 ans, fois 2 donc, puisqu'il était à la tête de deux syndicats. On s'en fout ou pas?
Attends, mais ça veut dire qu'en fait, quand le maire nous dit « moi je touche tant », en fait, oui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que derrière, il a des jetons de présence dans des syndicats, etc.
Exactement.
Syndicat intercommunal, tu découvres. C'est important que le grand public le sache.
Oui.
Oui, Didier, on s'en fout ou pas?
Bah non, on s'en fout.
Jérôme?
Non, on s'en fout pas.
Sandrine?
Je ne m'en fous pas non plus.
Pourquoi?
Parce qu'on a des politiques, pour moi, qui sont complètement déconnectées de la réalité. Alors oui, maintenant, on nous parle de conflits d'intérêts, mais bon, il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Et je me dis qu'à force de réagir comme ça, on va faire perdre des bons talents et que les politiques moins performants vont partir.
Ah, moi, c'est déjà fait, ça, Sandrine.
Non.
Ah, moi, je t'annonce que c'est déjà fait. Aujourd'hui, en politique, il reste les médiocres. Oui. Les médiocres qui viennent prendre des jetons et qui font que le pays est irréformable. Parce que les bons, ils sont partis faire du business à l'étranger ou dans des boîtes privées.
Il reste que les acteurs de série Z.
Ben oui, mais donc là, du coup, le peu qui reste, avec encore ce genre de choses, du coup, ils vont encore plus partir.
C'est parce qu'ils sont mauvais qu'il faut réformer le pays.
Non, mais. Ah, ça, je suis d'accord. Ça, il faut des vraies réformes structurelles. Parce qu'il faut avec quelqu'un qui va incarner un plan de vision. Aujourd'hui, qui est capable?
Mais c'est surtout qu'à un moment donné, dans ces histoires de jetons de présence, le syndicat intercommunal, et puis après le syndicat intercommunal de l'eau, de la géothermie, des ordures, des machins, eh ben, tu comprends pourquoi le pays, il est irréformable. Ah oui. Pourquoi on peut pas enlever une strate dans le millefeuille administratif français? Tu comprends? Parce qu'à un moment donné, tout est lié, et tu vas chercher des jetons de présence. Donc, si t'en enlèves un échelon, eh ben, à un moment donné, les jetons de présence, ils baissent. Et c'est pour ça que les politiques veulent pas réformer.
Non, mais il y a deux éléments, quand même, là, dans l'article qui nous préoccupe. À la fois, on a enlevé le cumul des mandats, mais on n'a pas enlevé le cumul des fonctions. Et le cumul des fonctions, elle leur amène beaucoup de choses. Mais après, moi, il y a une autre chose que j'aimerais savoir. On apprend, par exemple, que M. Bayrou, il a une fortune personnelle estimée à 28 millions d'euros.
Comment ça?
Moi, je voudrais savoir ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les politiques qui se sont enrichies par la politique.
Et d'où elle vient,
c'est-à-dire, quel était leur patrimoine avant la politique et après?
Bah, peut-être qu'il a hérité, on ne sait pas.
C'est ça qui m'intéresserait, moi.
Il a fait de la politique depuis toujours, François Bayrou.
Mais voilà, d'où vient cet argent?
C'est là où.
Est-ce qu'il n'a pas capitalisé grâce à la politique?
Il avait un héritage?
Je ne sais pas.
C'est familial?
28 millions, quand même.
C'est ce qu'il y a dans l'article.
En fait, Jérôme pose un bon principe, c'est-à-dire qu'on devrait regarder quel était le patrimoine d'un homme politique avant de rentrer dans une carrière politique et à la sortie. Et on voit, ouais, parce qu'il y a quand même maintenant beaucoup de responsables politiques qui n'ont fait que ça dans leur vie. Alors, il y a peut-être aussi des fortunes personnelles, des fortunes familiales. Par exemple, Jack Lang, on a beaucoup fustigé le train de vie de Jack Lang, mais il avait une fortune familiale, en fait. Je crois que c'était des industriels, Laurent Fabius, etc. Mais,
patrimoine de François Bayrou, pardon, hein, 2,9 millions d'euros.
Ah, j'ai pas eu j'ai mal lu.
Après avoir été DIRCAB à 28 ans et qui finissent à 70 ans politique. À un moment donné, ces gens-là, je ne crois pas qu'ils perdent du pognon, et parce qu'ils vont tirer des tickets à droite à gauche, ils s'enrichissent. Voilà.
Allez, mes chers grandes gueules, dans un instant, on va accueillir David Lisnard qui sera face à vous. C'est le maire de Cannes, ambitieux, puisqu'il veut être candidat à l'élection présidentielle. Enfin, il s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle. Il veut représenter, si j'ai bien compris, la droite libérale. Alors, le libéralisme, est-ce que ça a vraiment un avenir en France, pays de l'État-providence, de l'État nounou, de l'État présent partout, de l'État qu'on appelle dès qu'on a un problème? Est-ce que David Lisnard a une chance dans cette course à la présidentielle? Il sera avec nous dans un instant et vous pouvez bien sûr lui poser des questions au 32-16. A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.